Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver ce dimanche. Pierre, tout de suite, j'ai une énigme pour toi. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre Brianna Stewart, Chris Isaac et Penny Hardaway? Il y a une seule réponse possible au monde.
Oh putain, je vais faire comme Erwan sur First Team, faut que tu me dises la fac là.
Faut que je te dise la fac. Allez, allez, j'abrège tes souffrances. Le point commun, le seul, l'unique, c'est bien entendu Shai Mamou, star incontestée, universelle du CQFR pour tous ceux qui suivent le CQFR tous les matins. Premier invité officiel du podcast Hoop Culture, plébiscité principalement par Pierre Armand, parce que moi, Shai, je le vois tous les jours, Pierre Armand. Il a insisté pour que ce soit Shai, je me suis dit, ouais, excellente idée. Voilà, allez, Pierre Armand, tu nous présentes un petit peu le podcast de cette semaine.
C'est pas du tout ça, j'avais insisté pour Laïs Ribeiro, je te signale, depuis le début du Hoopcast, et tu m'as dit, franchement, avec les moyens qu'on a, on n'a que Shai pour l'instant, parce que même Antoine Pimel, il est trop cher, donc du coup, on n'en parle même pas de Benjamin, parce que lui, il faut payer en dollars, enfin, c'est une catastrophe, mais donc Shai est là et on est ravis. Non, mais on avait envie de se faire cette semaine, Théo, tu sais, parfois on aime bien... Alors, pas parler de nous, mais raconter un peu nos souvenirs, de savoir comment on est arrivé là, comment on en est arrivé à cette passion qui nous unit tous et qui a fait que le Hoop Culture existe et Basket Session et Rivers de manière plus générale. Et puis, on avait envie de discuter un petit peu de hors des sentiers battus avec Shai, puisque, comme tu dis, on passe notre vie avec, mais est-ce qu'on le connaît si bien que ça, Shai? Voilà, c'était surtout qu'on avait envie, on va pas se mentir, de passer un bon moment entre copains.
Bon, comment ça va, Shai?
Ben, ça va super bien, je suis très content d'être avec vous les gars, je vous suis tous les dimanches, parfois tous les lundis quand j'ai pas le temps, le dimanche même, je suis super content d'être avec vous.
Ça y est, c'est officiel, Shai a terminé le jeu parce que maintenant il est du lundi au dimanche.
Voilà, ça c'est ça, j'ai déjà fait le Mob Deep, maintenant le Hoop Culture, j'ai fait le bingo des programmes qu'il faut suivre sur la scène basket française et mondiale, voilà.
Le mec on a même fait une télé et un voyage dans un village vacances de 4 jours en Turquie, bravo.
Je prends, parfait.
C'est ça, on a même fait le bowler quiz ensemble. Donc t'es vraiment celui qui a tout fait sur toutes les plateformes possibles de Rivers et Basket Session, quoi.
C'est ça, et bientôt je serai chez JJ Redick en tant qu'invité aussi, les potes de Wojnarowski, enfin voilà, vous pouvez me retrouver partout.
À noter que vous dites ça en rigolant, mais moi j'ai pas fait un CQFR, j'ai pas fait un Mob Deep, j'ai rien fait, donc c'est vraiment pas très très mignon votre histoire.
C'est un tort et il faut rattraper ça, n'est-ce pas Théo?
Absolument, c'est prévu parce qu'on en a parlé, il y a pas mal de... Comme je te le disais en off hier, Shai, Pierre Armand, il est plus que chaud pour défier Antoine et toi pour quel que soit le terrain, je pense que ça soit à la pétanque, sur ça, un terrain de foot ou dans un burger quiz. Pierre Armand, il est hyper chaud, donc il faudra qu'on fasse une espèce de crossover comme ça, Hoop Culture versus CQFR, je pense que ça pourrait être assez marrant.
J'ai cru qu'il allait dire ou dans un Burger King, je me suis dit qu'il y a un choix dessus.
je peux être compétitif dans un Burger King, attention.
Bah allez, moi j'ai une première question pour toi, Shai, parce qu'en fait je suis même pas sûr de savoir vraiment. Je sais à partir de quand tu as commencé à suivre le basket et la NBA, mais comment est-ce que tu es venu au basket et la NBA, tout simplement?
Eh ben, donc tu parlais du quand, c'est en 95 à peu près, je date à peu près ça, la saison où Orlando... atteint les finales. Ça a commencé avec mes cousins. J'ai des cousins plus âgés qui étaient à fond dans la NBA, dans la culture US. Moi, j'étais plus foot de base. J'ai commencé par le foot et ça m'a suivi un peu longtemps. Mais vraiment, là, le déclic, ça a été la saison 95. Regarder les cassettes que mes cousins enregistraient, les magazines qu'ils lisaient, les posters qu'ils avaient. Et le crush s'est fait là, autour d'Orlando, de Penny Hardaway notamment. C'est vraiment à ce moment-là. Et puis, c'est drôle parce qu'à chaque fois je dis que j'ai pas connu le prime Michael Jordan, enfin la première période de Jordan, et que ça a un peu aiguillé mes goûts après, je pense, et mes préférences en matière de basket. Et c'est pour ça que j'aime les outsiders, j'aime les équipes comme Orlando, les équipes un peu jeunes qui montent, les équipes que personne n'aime à part moi. C'est un peu ma tendance. Et ouais, je daterai de cette période-là et de la passion transmise par les cousins un peu, ouais, je dirais.
En tout cas, on peut louer ta fidélité parce que depuis le temps, tu es toujours fan du Magic, même si en 95, en effet, Orlando était plus qu'outsider. Théo, c'était plus les Bulls qui étaient outsiders à ce moment-là, puisqu'ils étaient loin d'être favoris au moment où l'armada du Magic avec Horace Grant était arrivée. Et j'imagine que la fidélité... Alors, par contre, Shai, je loue cette fidélité parce que tu as dû manger du pain noir un petit peu acide ouais. pendant un petit moment. Et mais on est toujours dans cette peau d'outsider et Orlando qui continue son chemin un petit peu dans l'ombre. Et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose qui tu te dis, bah, moi, j'ai mon équipe, elle est tranquille, personne n'en parle, je la suis tranquillement, ou est-ce que tu aimerais un petit peu plus de lumière de temps en temps ?
Non, ça, j'aime beaucoup le côté niche. J'adore quand personne ne s'intéresse au truc que j'aime, que ce soit en musique, en série télé. Dès qu'il commence à y avoir une hype sur un joueur que j'aime bien, une équipe que j'aime bien, enfin, quoi que ce soit, je préfère opérer dans l'ombre. Ouais. pour Orlando, en tout cas, c'est ça. Après, pour Orlando, je suis pas un die-hard fan. Enfin, si, littéralement, parce que je continue de les aimer à travers les saisons, mais je suis plus un fan saisonnier, tu vois. C'est-à-dire que dès que ça commence à aller mieux, je ressurgis, je me remets à être un peu plus intéressé par l'équipe et par ce qu'elle fait. Et les saisons où ils ont dû manger leur pain noir, forcément, j'étais un peu plus détaché. Mais je prends ça moins à cœur que pour d'autres équipes, dans d'autres sports notamment. J'arrive à bien survivre quand le Magic n'est pas très compétitif, ça va. Et au contraire, je prends les bons moments comme cette année où c'est super d'être une équipe jeune qui monte avec des outsiders. Et il commence à y avoir une petite hype quand même, mine de rien, c'est très léger, mais les gens s'intéressent à Banchero, à Wagner. C'est évidemment pas pareil que pour d'autres franchises, c'est pas un marché très très sexy non plus, et les gens rêvent pas forcément d'aller à Orlando, mais ouais, non, si, j'aime bien le côté discret du Magic.
Mais là ça va commencer, vous allez être de plus en plus nombreux, parce que c'est vraiment lui, enfin, déjà l'an dernier on en parlait, que ce soit dans le podcast ou autre, c'était un de mes péchés mignons. Orlando, je trouve que c'était une des équipes les plus cool à voir jouer. Ça l'est encore plus cette année. Là c'est fini, parce qu'avant vous étiez tranquille, il y avait Georges Eddy et Frédéric Young et toi tranquille dans le train avec toute la place pour mettre les pieds sur les banquettes, mais ça va pas durer longtemps là.
Mais je suis pas sûr que ce soit non plus que les gens gravitent beaucoup autour du Magic, tu vois. Ils disent ouais, c'est bon, c'est pas mal, mais c'est pas un style de jeu qu'on pourrait décrire comme traditionnellement sexy, tu vois. Ça défend quand même fort. Et même les joueurs en eux-mêmes, c'est sympa. Banchero, c'est cool, mais ils n'ont pas l'énorme superstar que tout le monde attend, type Wembanyama. Donc non, je pense que je ne sais pas si ça va faire naître une génération de fans, tu vois. Les Warriors, quand Curry a commencé à éclore, bah, tout de suite, on a vu des mecs sentir que ça allait être le type qui allait marquer la NBA dans les années à venir et se mettre autour des Warriors, après le premier titre, évidemment, encore plus. Non, le Magic, je pense qu'on restera dans un club très, très fermé. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être à nouveau une participation au final, je sais pas, parce que c'est un peu cyclique le Magic. Il y a eu la période avec Shaq et Penny, puis Dwight Howard, et puis là, peut-être bientôt avec Banchero, j'espère.
Puis surtout, c'est un club qui n'est pas franchement médiatisé par la télé nationale aux États-Unis. Ça doit être un des clubs les moins diffusés, c'est vrai. Et malgré tout, ça joue, parce que si vous n'avez pas forcément de League Pass pour suivre tous les matchs de vos équipes préférées et que vous vous rabattez sur des canaux plus, on va dire, généralistes comme Bein, pour le SNL du dimanche, on a rarement le Magic. C'est vrai, faut reconnaître que c'est rarement le choix que fait, non pas Bein, mais en tout cas la NBA, de programmer à des heures européennes, on va dire, certains matchs.
C'est ça, mais ça va être sexy dans son propre genre. Voilà. Ils vont devenir populaires dans leur propre, de leur propre manière, je pense, sans jamais. Tu vois, ça me fait penser un peu à quand Indiana avait Paul George, Roy Hibbert et tout. C'est-à-dire que c'est pas un marché qui fait rêver, c'est pas des joueurs qui individuellement font rêver, mais il y a une telle compétence et une constance dans la performance. Enfin, je les vois adopter un peu un schéma pareil, une progression de ce type-là. J'espère qu'ils arriveront à faire ce que n'a pas réussi à faire Indiana, c'est-à-dire passer un obstacle du type Miami, et que ça débouchera peut-être sur des finales NBA à un moment. Mais ouais, non, je suis quand même assez confiant pour l'avenir pour Orlando, surtout à l'Est où les équipes fortes sont un peu moins nombreuses quand même.
Oui, puis Orlando, quand même, contrairement à Indiana ou d'autres équipes de ce type-là, a eu des stars en fait. Parce que vous avez eu Shaq et Penny, après il y a eu T-Mac qui était au sommet de son art peut-être. Après il y a eu Dwight Howard à un moment où, je sais qu'on a tendance à l'oublier, mais à un moment ça a été l'une des stars les plus populaires de NBA.
Il n'est même pas dans les 75 all-time, alors que ça a été un triple meilleur défenseur de l'année. C'était le meilleur pivot de la ligue à une époque où les pivots servaient encore à quelque chose. Voilà, il paye une personnalité un peu particulière, je pense. Il n'est pas très aimé par ses pairs, le public n'a pas trop aimé son côté clown, puis après son déclin, ou en tout cas le côté obsolète de son jeu un peu. Et puis, mais c'est un joueur ultra sous-coté, Dwight Howard, la période où il dominait, et c'était spectaculaire, hein. C'est-à-dire qu'il faisait les concours de dunk où il se déguisait en Superman, dans les matchs il claquait des actions assez dingues, des stats assez dingues aussi pour l'époque. Moi j'ai adoré Dwight Howard, hein. C'est un des premiers joueurs NBA que j'ai rencontré en plus, il était venu faire un truc avec Adidas à Paris, et puis il était très, ouais. Ouais, très affable, très bon client, quoi, finalement.
C'est vrai que c'est étonnant de voir la manière dont les périodes d'Orlando s'articulent dans l'imaginaire collectif, et que si on met un top 3 des périodes, on va te dire Shaq Penny, on va te dire T-Mac, et cette équipe qui a fait la finale, et en plus avec un joueur français, donc ça aurait dû être un événement absolu à l'époque finalement, et relégué derrière, et cette période est sous-cotée. Alors certes, parce que bon, il y avait cet engouement pour le retour des Lakers, et que tout le monde parlait de l'Ouest, et qu'à l'Est, bon, à part Boston et l'avènement de LeBron, c'était un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est cette période a été sous-cotée. Moi, je suis d'accord. Alors, il y a débat sur cette histoire de Dwight Howard, 75, mais c'est vrai que, franchement, sacré bonhomme quand même.
Mais l'équipe qu'il arrive à emmener, alors moi je les adore individuellement, mais si tu regardes sur le papier là avec le recul, l'équipe qui va en finale contre les Lakers, donc Dwight était le meilleur pivot de la ligue à ce moment-là, c'était assez indiscutable, mais autour, alors j'adore Rashard Lewis, je kiffe, mais c'est un très bon joueur, mais c'était pas une superstar de la ligue. Jamir Nelson qui est devenu All-Star à Orlando, Turkoglu, c'est des joueurs pour hipster un peu, tu vois.
Ouais, moi je t'en cite pas 5, hein, ça c'est clair.
Ah ouais. Et pourtant, et tu parlais de Mike Pietrus qui était très bien, Orlando d'ailleurs. Hein. Et c'était pas une équipe ridicule, ils sont pas arrivés là par hasard, ils ont battu des grosses équipes aussi, les Cavs, Boston. Et je pense que oui, ils sont un peu oubliés et ça mérite d'être évoqué. C'est forcément un peu derrière dans le cœur des fans d'Orlando parce que les gens ont la nostalgie de Shaq et Penny, même moi alors que j'étais petit, mais je m'en souviens bien. C'était un autre. Tu sentais vraiment l'équipe jeune qui arrivait avec un nouveau design, c'était une nouvelle franchise, c'était hyper. Sexy, des stars charismatiques, l'espèce de petite semi-rivalité, semi-amitié, Penny Shaq. Et puis tout était fait pour que ce soit emballant. Et là, bon, ça restera le numéro 1. Et la période avec Dwight, passe après, malheureusement aussi, c'est comme ça.
C'est vrai que ça a été un épiphénomène quand même, c'est ce Magic des années 90, on s'en rend compte. On sentait que la NBA avait poussé cette histoire pour la période post-Jordan, pour essayer d'avoir quelque chose de chouette à raconter. Et puis on avait parlé avec Théo dans les théories du complot, ces deux premiers tours de draft consécutifs pour le Magic. Ouais. Et puis une fois que le boss est revenu aux affaires un petit peu, bon, bah, il a éteint à la fois la concurrence. Et puis tu parlais de semi-rivalité, semi-amitié. Quand vous regardez le documentaire d'ESPN, Magic Moment, à la limite, Penny, je pense, s'en taper un peu. Mais c'est là que chaque on se rend compte que c'était quand même une bonne tête de nœud. Quoi.
Oui. Il y a trop d'immaturité des deux côtés. Je pense que les deux, Penny, je pense qu'il avait un melon aussi après justifié. Hein. Pour plein de joueurs, quand on parlait des. Je sais plus, c'était dans le CQFR de samedi dernier, on parlait un petit peu des what if, là. Même dans les commentaires, il y a plein de gens. Je crois que. Toi, Chat, il t'avait parlé de la blessure de Penny. Mmh. Et dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui ont mis aussi Penny. Je pense que parmi les mecs qui ont été blessés, on se demandera toujours ce qu'ils auraient pu donner. Penny Hardaway, il est très haut dans la liste, clairement.
Et il a été porté très haut aussi. Enfin, la question de l'ego et tout. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été aussi très médiatisé par rapport aux moyens de l'époque, hein, même sans les réseaux et tout ça. Même au niveau sponsoring, il y avait là avec sa petite marionnette, avec Little Penny. Enfin, ses chaussures, elles étaient très demandées. Et t'as Shaq à côté qui. Ça a été un peu une. Ça s'est répété plus tard dans sa carrière avec Kobe, il a toujours des petites rivalités avec ses coéquipiers. Il voulait être l'alpha dog du vestiaire. Ça se sentait déjà très jeune. Et Penny avait, de par son talent, qui est, je pense que tout là, les gens qui nous écoutent et nous regardent savent très bien de quoi on parle parce que s'ils sont de la même génération que nous ou même un peu plus âgés ou quoi, ils savent que Penny c'était un joueur incroyable, que ça aurait dû être un des meilleurs joueurs de tous les temps sur l'arsenal qu'il avait de joueurs. Moi, une fois par an, je pense pour mon bien-être, je me refais les 40 plus belles actions de Penny Hardaway avec le Orlando Magic. C'est sur YouTube. Et juste pour me rappeler bien que c'était quand même, voilà, pour le côté what if, mais il était exceptionnel. Et c'est normal qu'il y ait eu cet engouement à l'époque. Et il y a beaucoup de joueurs, de gens de notre âge ou autour qui sont nostalgiques de cette époque-là parce que tu as l'impression d'avoir assisté à un petit phénomène culturel. J'ai parlé d'épiphénomène. C'était l'équipe qu'il fallait soutenir. Il y avait plus, Jordan n'était pas là en retraite et c'était l'équipe qui était là pour prendre la place.
Et donc, tu regardes plutôt ces highlights d'Orlando plutôt que ceux de Phoenix. Ça un peu étonnant de ta part.
Phoenix a d'ailleurs eu deux, c'est quasiment mes deux joueurs préférés all-time. Ils ont eu Penny Hardaway et Jason Kidd en même temps dans une équipe. Et ça n'a pas fonctionné.
Alors, attendez, parce que moi, Voilà, je viens de voir ceux de Phoenix, c'est bon, c'est fini.
Voilà. C'est ça. Il y avait deux lancers francs dedans.
Alors moi, vous savez que tu sais, Théo, j'aime bien me foutre la honte dans Hoop Culture en racontant mes souvenirs de basket. Je vais te raconter un par rapport à Penny Hardaway. Vous connaissez tous ce fameux move qu'il fait. Tu sais, il fait un espèce de dribble inversé et puis il fait un step back sur la droite, là. Tu vois, ce move qui est impossible avec un gars qui défend sur lui. Il arrive à créer 1m50 de différence rien que là-dessus. Et moi, un jour, je me suis dit, en match, on mène de genre 25 points, et je me suis dit, tiens, vas-y, je le tente, parce que je retrouve, on était tous les gars du banc, sortis de banc, en face, il y avait tous les gars sortis de banc, tu vois, donc je me dis, allez, vas-y, mec, tu l'as regardé à peu près 200 fois à la télé, sur des cassettes vidéo que tu as enregistrées, et je me dis, je l'ai fait à peu près 600 fois dans ma cour. Nickel, j'ai crossé 8 fourmis et 14 escargots. Les gars, c'est pour moi, je le fais. Écoute-moi, alors, c'est pas la peine de mettre des commentaires désobligeants sur ce qui va suivre. Je pars sur le dribble reverse et je fais le step back seulement. En bas, mon pied droit n'a pas compris ce que je voulais faire, ou en tout cas, l'info n'est pas passée. Je me prends les pieds sur le truc, je me casse la gueule.
Et l'arbitre s'y faute sur le gars d'en face.
C'est beau, ça.
Non, écoute. C'est le pire, à la limite. L'arbitre s'y faute. Moi, mauvaise foi, je suis. Eh, mais ouais! Comme ça, l'arbitre vient et m'aide à me relever parce que je m'étais vraiment cassé la gueule, c'est-à-dire pas genre je trébuche, je tombe à plat comme ça parce que je me suis vraiment pris pied. Il m'aide et il m'aide à me relever et je pars pour faire une remise en jeu. Il vient avec moi et il me dit tu t'en sors bien parce que lui il avait pas de faute, mais moi j'ai vu le truc. Donc le mec me met une faute de pitié et ça, je sais pas si vous dans votre cas. Une faute de pitié où le mec a plus 30 et il dit tout le monde va se foutre de ta gueule, donc j'allais faire comme ça et finalement non je te mets une faute. Horrible. Horrible souvenir de Penny Hardaway et multiples souvenirs de honte de ma part sur un terrain.
Du coup tu lui en veux un peu d'avoir été à l'origine de cette honte ou pas?
Bah du coup à chaque fois que je vois ce highlight, je me dis qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais tenter. Tu sais, c'est presque don't try this at home, tu vois. Il faudrait un bandeau pour le mettre.
Attends, mais moi, parce qu'on parle de star, moi j'ai une autre question pour toi, Shai, parce que la rumeur dans les rues du Maryland dit que tu serais l'authentique KD stopper, que tu aurais été voilà, le seul joueur face à qui Kevin Durant a perdu ses moyens. Est-ce que tu peux nous raconter quand même ce que tu as partagé le parquet avec Kevin Durant?
KD, c'est pas donné à tout le monde. Karen de la Porte.
C'est ça, elle-même. Non, mais c'était un voyage de presse autour de Kevin Durant à l'époque. Donc j'étais déjà chez Rivers. Hein. C'était à Washington. C'était la sortie d'un de ces modèles de chaussures dont j'ai oublié duquel il s'agissait. Et donc il y avait tout un truc autour. Donc on a visité sa maison d'enfance. Les quartiers qui donc c'était super sympa et en parallèle on était allé à la fac de Georgetown qui est donc dans Washington et on avait pu faire un petit match entre médias lui son des mecs de son entourage et un coup j'ai parce que j'ai, là on me rappelle souvent que je me suis fait dunker dessus par Kevin Durant lors de ce match et qu'il y a une vidéo promotionnelle où on me voit vaguement essayer de défendre sur lui. Donc je fais 1m73, hein, que je vous laisse imaginer visuellement ce que ça donne, parce que personne d'1m73 de raisonnable n'irait défendre sur lui en NBA. Et donc je me suis pris un dunk. Heureusement, on ne le voit pas trop sur la vidéo, je crois. Et j'ai essayé de défendre sur lui autant que possible. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand j'étais dans son équipe, je lui ai fait une passe décisive aussi. Voilà. Ce qui n'a rien d'un exploit, parce que Kevin Durant peut marquer d'à peu près partout sur le terrain. Mais voilà.
C'est propre, ça. Dans tes statistiques, tu peux mettre quand même une passe décisive pour Kevin Durant dans tes stats all-time.
Voilà. C'est ça.
Pas donné à tout le monde, c'est clair. Et donc, mais tu sais que j'avais même complètement oublié cette histoire de Dan. Est-ce que tu peux nous raconter l'action comme c'est quoi? Il est contre-attaque.
T'as joué le passage en force au moins?
Mais même pas, je sais pas. Mais après, moi, il faut savoir que je suis pas comme vous. Je suis pas un très bon joueur de basket. Je fais de mon possible, je fais de mon mieux.
J'ai entendu ce que je viens de te raconter il y a 10 minutes.
Oui, déjà, toi, tu as eu l'idée de le tenter. Tu vois. Moi, j'aurais jamais techniquement eu la possibilité de le faire. Mais quand je joue au basket, j'essaie de jouer avec mes qualités, c'est-à-dire d'essayer de défendre un peu et de montrer que je suis intéressé par ce qui se passe. Donc, je vois un mec, Kevin Durant ou pas Kevin Durant, il passe à côté. Donc j'ai essayé de me mettre entre lui et le panier, quoi. Lui, je sais même pas s'il a remarqué ma présence, hein, voilà, mais il a dunké et je crois son bras a dû finir sur mon épaule. Enfin voilà, c'était pas...
c'est exceptionnel la phrase que tu viens de dire. Ça pourrait être ce qu'on marque sur ta pierre tombale. Kevin Durant ou pas Kevin Durant, je me suis mis entre lui et le panier.
Ouais, c'est clair. Ça, c'est beau, ça, c'est le dévouement du
genre
défenseur.
Roberto voilà. Carlos ou pas, je me suis mis dans le mur. C'est ça.
Mais tu vois, j'aurais eu plus. Là, j'étais inconscient. Alors qu'en foot, je me serais dit, non, mais Roberto Carlos, je sais, il ne faut pas que je le fasse. Là, je ne sais pas, Kevin Durant, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Tu vois.
En tout cas, c'était cool, les voyages de presse de Rivers.
À l'époque, c'était.
Il
n'y
en a pas d'autres.
C'était sympa.
Il n'y en a pas un qui arrive.
C'était
notre époque,
sympa,
monsieur.
Ouais.
C'était avant la récession, ça.
Ouais. Il y a Joel Embiid qui vient de signer chez Skechers. Il n'y a pas un truc à faire, là, Philadelphie.
On est tout ouï, hein, si quelqu'un de Skechers veut nous envoyer à Philadelphie pour interviewer Joel Embiid.
C'est les marques qui ne veulent plus. Hein, c'est comme ça. C'est chez eux, la crise. Hein, c'est...
Alors moi, j'ai une question pour Shai, parce que Shai, on le voit beaucoup, mais si vous aimez Basket Session et Rivers, on le lit énormément. Moi, c'est comme ça que j'ai connu ton nom. J'ai deux questions. La première, c'est on a écrit sur la même personne sur ces derniers mois, sur Dennis Rodman, moi, dans le MOOC Bad Boys et toi sur le MOOC Spurs. Et j'aimerais savoir quel a été l'article que tu as, parce qu'on sent que tu t'es bien marré en faisant celui-là, mais quel est l'article que tu as pris le plus de plaisir à écrire all time, c'est-à-dire que ce soit dans un MOOC ou sur Basket Session. On sait que tu adores faire tout ce qui est les MVP race ou les classements ou les trucs avec beaucoup de mauvaise foi, ça c'est ce qu'on fait le plus. Mais quel est l'article que vraiment où tu t'es dit en l'écrivant, où tu as pris peut-être parce que tu as appris plein de choses, ou mais vraiment un truc où tu as kiffé comme il fallait?
Alors moi, de manière générale, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est portrait. J'aime bien quand j'ai pu avoir des interactions avec la personne en question ou des gens de son entourage. Et tout ce qui est un peu histoire, ouais, tout ce qui raconte une histoire, tout ce qui revient sur des histoires passées. Alors si je réfléchis, là on parlait de Kevin Durant. J'avais fait un article à l'occasion de ce voyage, un truc un peu long, c'était avant qu'il soit MVP et il était toujours il y avait le côté mystérieux de KD où côté un peu impénétrable où il communiquait de manière déjà pas très tout le temps très ouverte, et là vu qu'on avait eu des accès, que j'avais pu lui parler, que j'avais pu parler à son entourage, à sa mère, au maire de la ville dans laquelle il a grandi, c'est une des fois où j'ai eu le plus d'accès à quelqu'un pour faire une sorte de portrait pour mieux le connaître. Et donc je pense que celui-là c'était un de mes préférés. C'est peut-être le contexte aussi qui était cool, parce que tu vois, voilà, oui. Comme tu le disais, c'est quand même super sympa, tu t'es envoyé à Washington, on te fait une sorte de voyage initiatique, c'était quand même assez incroyable. Et sinon globalement, peut-être sur les en termes de thématiques, l'histoire autour de Mayamour, j'ai bien aimé, enfin tu voilà, vous savez que j'ai mes sensibilités sur le basket féminin, les enjeux autour des questions sur le basket féminin. C'est pas facile comme ça, parce que ça commence à faire un paquet d'articles, hein, depuis que ça va faire quoi, ça va faire plus de 15 ans que j'écris entre Basket Session et tout ça, et comme ça en tête j'en ai pas. Je sais que juste qu'à chaque fois j'adore, parce que justement ça me permet d'explorer le côté ou portrait ou histoire ou des trucs un peu méconnus. Ça c'est ce que je préfère faire. Là spontanément je dirais KD, l'article sur KD, parce que, et c'était avant la formule MOOC, hein, pour ceux qui nous connaissent que depuis peu de temps, on était un magazine plus traditionnel où j'avais pu faire cette histoire-là, qui avait été l'histoire de cover, ça avait été l'histoire de l'article de une. Et ouais, c'était super souvenir et super même exercice à faire avec tous ces intervenants autour, j'avais beaucoup aimé. Ouais.
Et toi, Théo, alors, ce serait quoi?
Ouais, j'allais dire, franchement, Shai, c'est pas une surprise, hein, ce que je veux dire, mais je trouve que Shai, il a vraiment un talent pour raconter les histoires, te mettre au cœur de l'histoire en termes d'écriture. Et moi, le premier qui me serait venu en tête, il y en a plein, mais celui sur Mayamour, c'est vraiment un de ceux qui m'est resté en tête. C'est dans peut-être mon MOOC préféré, le numéro 6, la Morden Bowler. Ouais, ton portrait de Mayamour, je le trouve incroyable. Si vous ne connaissez pas l'histoire de cette joueuse dont on a parlé, je crois, un petit peu la semaine dernière, déjà avec Pierre, on a mentionné son nom. Voilà, histoire de vie complètement folle d'une joueuse incroyable. Et ton portrait était vraiment magnifique.
Merci.
Shai Mamour.
Ah, ce fut un de mes surnoms, fut un temps. J'essaye de m'en défaire, hein, mais...
Mais d'où vient cet intérêt, alors qui est ultra légitime, et encore plus en ce moment pour le. Alors, on connaît ton histoire mi-love, mi-trash que tu as eu, puisque tu as été pendant 2 ans le compagnon de Liz Cambage. Tout le monde le sait.
On sait que tu en es
pas ressorti indemne. Je faisais 1m86 avant de connaître Liz Cambage. Mais d'où vient cet amour pour le basket féminin comme ça? Parce que c'est vrai que nous, on est abreuvés parce que de basket masculin, parce que les médias sont comme ça. Mais là, on a vu que par exemple, le match LSU contre Iowa a été plus regardé que les finales NBA, plus que 12 millions de personnes qui ont regardé ce match. Incroyable succès du basket universitaire, et on est rien que sur l'université. D'où c'était venu cet intérêt?
J'ai toujours suivi plus ou moins de près les résultats féminins. Alors, il faudrait que je me pose la question de mon intérêt. J'ai une sœur qui a joué au basket. J'ai toujours eu plein de filles dans ma vie, donc je sais pas. En fait, je pense que les problématiques liées au sport féminin, elles m'ont toujours touché et ça m'a toujours intéressé, en fait, parce que ça fait des années que le basket et la NBA, ne serait-ce qu'en France, c'est un terrain qui est déjà défriché, quoi. Tout le monde, il y a de plus en plus de médias autour. Il y a pas besoin d'en faire la promotion. C'est plus une niche, en fait, le basket masculin. La NBA, c'est plus une niche. Et là, j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui méritait d'être mis en lumière. C'est pas le même style de basket. C'est pas les mêmes enjeux en termes de plein de choses. Il y a des problématiques autour sur l'équité salariale, les droits LGBT, la maternité. Enfin, c'est plein de sujets qui m'intéressent déjà dans ma vie de tous les jours. Et ça s'englobe bien. Et puis j'ai une admiration assez folle parce que c'est des filles qui. Parce que souvent, les haters, les critiques, ceux qui ne regardent pas, ils disent c'est pas spectaculaire, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, en tant que non-basketteur, quand je vois des matchs des filles, je suis ultra bluffé parce que chez les gars, je vois les différences faites parfois juste sur les qualités athlétiques, la taille. Et là, je vois des superbes athlètes, mais aussi des joueuses qui sont qui ont une intelligence de jeu tactiquement, les coachs qui ont fait les deux. Théo, t'es coach d'une équipe de filles. On m'a plusieurs fois dit, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, que c'était presque plus intéressant tactiquement. Il y avait plus de répondants et d'intérêt pour la chose tactique, pour la connaissance du jeu, même chez les filles. Et je le ressens même quand je vois des matchs, en fait, et quand je suis l'actualité. J'ai toujours plus ou moins suivi, même en WNBA depuis que ça existe, depuis que la ligue existe. Sur les premières années, c'est à peu près en même temps que mon intérêt pour le basket, finalement, pour l'NBA avec Orlando. J'ai toujours regardé et je crois que ça a vraiment pris un boost. L'année que j'ai passé à New York, j'avais un de mes collègues qui avait fait UConn. Et c'est l'année où UConn a encore gagné pour la Xème fois. Et il regardait tous les matchs, même les matchs des filles pendant la March Madness. Et je me suis vraiment remis, en tout cas à fond, et sur le basket universitaire à ce moment-là. Et j'ai vraiment accentué mon intérêt pour la WNBA. Et ça me lâche pas. Ça peut paraître surprenant, mais je suis plus excité et intéressé par les matchs des filles que par la NBA. J'adore suivre la NBA au quotidien, attention, qu'on se méprenne pas, sinon je ferais pas ça. Mais j'adore ça et les histoires qu'on peut y raconter. Mais je suis plus et presque touché quand je vois des belles histoires et des équipes réussir, des joueuses performer. Je suis plus touché et ému presque que quand y a la même chose chez les gars, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore médiatisé et respecté à sa juste valeur, je pense.
Ouais, parce que du coup, j'allais te poser la question si tu étais venu directement par la WNBA ou si tu avais déjà été à l'époque Bourges, Valenciennes, enfin
je suivais, mais j'allais pas au match. Je regardais quand ça passait. Il y avait sur Sport Plus, ils montraient les matchs sur les différentes chaînes. La chance que j'avais, c'est qu'à la maison, on avait CanalSat, donc il y avait toutes les chaînes, donc je pouvais regarder un peu tout ce qui passait, et notamment des matchs de Coupe d'Europe féminine. Mais non, ça a vraiment, c'est comme pour le basket, mon intérêt, il est très très porté vers les États-Unis, mais je suis quand même aussi ce qui se passe en France et en Europe. Mais ça a vraiment commencé avec la WNBA, quand même.
Et puis le jeu, j'ai l'impression, alors je sais pas ce que t'en penses, Chai, mais pour avoir suivi aussi, dès qu'on a pu avoir accès un petit peu au match de WNBA, j'en avais regardé dès l'époque. Alors bien sûr, je suis beaucoup moins que toi, Chai. Hein, t'es mon référent. À chaque fois, quand je vois passer un truc, je t'envoie un message pour que tu me confirmes si je suis tombé sur une vraie forte joueuse ou si je me suis laissé avoir. Mais j'ai l'impression que la qualité de jeu en WNBA a grimpé de manière exponentielle là, sur une dizaine, les 10 dernières années. C'est complètement fou, quoi.
Bah ouais, et puis déjà, de base, enfin, vu que les filles sont obligées de faire leur 4 années universitaires, c'est des joueuses déjà. Alors, c'est pas des joueuses finies parce qu'elles doivent progresser, jouer contre des pros, tout ça, mais c'est une ligue d'une densité de talent qui est folle. Il n'y a que 12 équipes, donc c'est vraiment la meilleure ligue du monde. Pour se faire une place, c'est une tannée. T'as des filles super talentueuses qui arrivent de fac ou de l'étranger, qui sont dominantes dans leur championnat respectif, qui n'arrivent pas à se faire un spot de 8e ou 9e joueuse, même rien que ça. Et c'est. T'as raison, il y a eu un vrai boost. Ça fait peut-être. Là, c'est, j'allais dire de pire en pire, mais de mieux en mieux, en fait. Hein. Toutes les équipes ont leur star. Il n'y a pas vraiment de tanking à proprement parler. Il y a des équipes qui savent qu'elles n'ont pas les moyens de lutter, donc elles développent. Mais c'est rare sur les 12. Tout le monde est compétitif. Chaque équipe a sa star. Alors, ça a changé cette année. J'allais dire, c'est un peu comme la NBA à l'ancienne où chaque franchise a son franchise player et part au combat pendant 10 ans avec, en espérant peut-être à la fin y arriver. Il commence à y avoir des super teams, donc je suis un peu moins fan de ce procédé-là. Mais ouais, le niveau, il est dingue, le niveau de tactique, l'intensité défensive. Il n'y a pas de match pour rien, déjà. C'est des saisons très courtes, et tous les matchs sont intenses et ont un enjeu. Et c'est un peu ce qu'on déplore parfois sur l'NBA, les saisons à 82 matchs, même si ça a un peu changé avec le play-in et les trucs comme ça. Mais en WNBA, tous les matchs comptent et tous les matchs sont intenses, et c'est ce que j'aime voir.
C'est surtout qu'on voit surtout l'intérêt, tu l'as dit, c'est une phrase fondamentale, les 4 ans de fac, tu les vois. En effet, c'est des joueuses qui sont encore en développement, mais qui sont coachables à l'infini, parce qu'elles ont l'habitude du respect, du travail, d'un programme. Elles sont dans un programme, elles rentrent dans un nouveau programme, mais du coup, l'état d'esprit est là. Alors la seule qui était un petit peu hors du... Bon, il y avait des caractères, mais c'est vrai que Liz Cambage était un petit peu... hors de ce moule-là, parce qu'elle avait aussi quelques soucis de santé mentale et sur lesquels elle travaille encore, et on le voit sur ses, si vous la suivez sur ses réseaux, voilà, des moments où on sent que c'est pas pas des grandes périodes. Mais là, moi, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu, c'est alors on va pas dire que le problème du racisme est toujours réglé aux États-Unis, mais il y a une opposition qui a été faite par les médias, et certains médias un peu malsaines, entre deux personnages totalement antinomiques, que sont Caitlin Clark, Paige Buckler et Angel Reese, et on sent que la WNBA prend, ou le basket universitaire prend de l'importance, parce qu'on commence déjà à créer la narration, les gentils, les méchants, et ça tombe un petit peu toujours du mauvais côté. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, parce que là, on a des prises de parole qui sont fortes de certaines coéquipières, notamment suite à la défaite d'LSU, lors du Elite 8. Alors on enregistre cette émission en milieu de semaine, donc on n'a pas encore les résultats des Final Four, donc on ne sait pas encore ce qui se passe, si vous regardez l'émission un petit peu plus tard, mais voilà, il y a quand même un déferlement encore de haine qui est sorti après Angel Reese. On voyait les gens qui la moquaient un petit peu dans les tribunes, tout ça parce que l'an dernier elle avait fait ce geste là et que cette année, ben, on voyait même des types généralement un petit peu des acteurs assez connus, Jason Sudeikis, etc. qui se foutent. Bon, y a une haine, je trouve, qui est un petit peu particulière. On avait même vu le frère de je ne sais pas quelle joueuse qui était descendu sur le terrain pour essayer de...
C'est son frère, elle, ouais.
Ouais. Donc, bon, tout ça, et voilà, je voulais savoir ce que tu en penses, ou si c'est une perception que j'ai moi, parce qu'elle est... c'est la perception de l'immédiateté des réseaux sociaux.
Je pense que c'est un peu lié au public du basket universitaire, quelque part, parce que s'il y a plus, j'allais dire l'Amérique profonde de façon péjorative, mais tout le monde est intéressé par le basket universitaire.
Oui, c'est essentiel.
Voilà, c'est, comme je le dis souvent, mes deux colocs, il y en avait un qui n'avait rien à secouer du sport, mais il, dès qu'il y avait son université qui jouait, il se transformait en hooligan, quoi. Et c'est pareil, c'est-à-dire que là, ça attire aussi un public de gens. Malheureusement, il y a du racisme, il y a beaucoup de racisme aux États-Unis dans certains États, et donc quand il y a l'occasion de se saisir de ces trucs-là avec des personnages qui sont aussi entiers. Angel Reese, alors attention, je suis pas du tout dans la... c'est pas de la faute de la victime quand elle se fait attaquer, attention, hein. Quelle que soit la situation, elle mérite pas de se faire insulter ou quoi. C'est une joueuse qui est en recherche, et elle l'a déjà dit, hein, par exemple, la WNBA a besoin d'une nouvelle Liz Cambage quelque part. Depuis qu'elle est partie, le côté super vilain, elle l'assumait, elle provoquait, elle trash-talkait, et c'est super, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Hein. Et... Ce rôle-là, elle l'a pris très tôt en NCAA, et malheureusement pour elle, ça lui revient dessus parce qu'elle a aussi entretenu cette chose-là, et ça ne justifie en rien le fait qu'elle se fasse emmerder. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, et ça, on le retrouve un tout petit peu en WNBA, il y a quand même une pas mal, et dans le sport américain aussi de toute façon de manière générale, le côté communautariste, il ressort parfois de manière que nous, on ne peut pas tout le temps comprendre, mais qui oppose des athlètes, des fans d'athlètes blanches et des fans d'athlètes afro-américaines qui disent elle est super médiatisée, on ne comprend pas pourquoi alors qu'elle n'est pas si forte, et nous, on n'est pas assez médiatisés, et tout ça. Et c'est très... C'est sur les réseaux sociaux, encore une fois, mais là, en l'occurrence, pour le cas d'Angel Reese, c'était, je pense que c'est assez lié au fait que c'est universitaire. J'ai l'impression qu'il y a une plus grosse solidarité, cohésion entre joueuses, entre les fanbases aussi, en WNBA. Peut-être aussi parce que c'est une niche et que c'est moins grand public, pour l'instant, et ça déchaîne moins les passions. Il y a eu un peu le cas avec Ionescu en WNBA, ça a suscité un peu de jalousie, des accusations de sponsoring et de médiatisation abusive envers elle, parce qu'elle est blanche et tout ça, alors que d'autres joueuses afro-américaines n'ont pas eu le droit aux mêmes choses alors qu'elles étaient au moins aussi talentueuses. J'ai quand même l'impression que c'est... Là, pour le cas, ce cas précis-là, c'est lié au fait que ce soit universitaire et que ça convoque l'Amérique profonde qu'on n'aime pas, quoi, tu vois.
Tout à fait.
Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est aussi parce que c'est cette ligue et puis la NCAA féminine cette année et ces deux dernières années est de plus en plus médiatisée, qu'on entend, que ça nous revient aussi aux oreilles. Et c'est vrai que par le passé, je pense qu'il y avait déjà ça, mais qu'il y avait que ceux qui suivaient vraiment au jour le jour ces ligues-là qu'on avait conscience. C'est vrai que, comme tu le disais, Charlie, je pense qu'une joueuse comme Caitlin Clark aujourd'hui aux États-Unis, tout le monde a un avis sur ce qu'elle fait. Et donc, forcément, il y a une espèce d'effet loop qui fait qu'il y a une distorsion peut-être. Soit de ses performances qui sont incroyables, soit de sa personnalité ou de sa personne, et des gens qui vont chercher à s'emparer d'elle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les athlètes. Parce que juste avant justement leur affrontement, j'ai vu des propos de Reese qui disaient que quand elle était sur le terrain, elle n'avait pas d'amis, mais qu'elle s'entendait très bien avec Caitlin Clark. On sait que Paige Bakers et Clark ont été ensemble avec Team USA, donc c'est aussi, il y a pas mal de choses qui sont un peu cousues de fil blanc, ou du moins qui sont fabriqués par la machine à médias, la machine médiatique, que ce soit les réseaux ou autres. Et puis il y a le jeu des first take, en fait, des hot take, des mecs comme Stephen A. Smith et plein d'autres qui vont forcer le ton pour avoir un argument hyper fort, et du coup ça crée des antagonismes qui n'ont pas lieu d'être, je pense. Je suis sûr que si elle se retrouve dans un vestiaire, il n'y a pas de problème, quoi.
Mais non, d'ailleurs, l'année dernière, pareil, ça avait été critiqué, le fameux geste que tu m'y mets, ça avait été critiqué, ils avaient dit elle manque de respect, elle est pas machin et tout. Et la première qui l'avait défendue, c'était Caitlin Clark, alors qu'elle était plus ou moins la cible du truc.
Oui, c'était la cible.
Voilà. Et elle l'avait défendue en disant qu'elle adorait le fait qu'elle trash talk comme ça et qu'elle soit aussi engagée dans les matchs, et que elle comprend tout à fait ça, elle a le côté compétitrice. Et c'est les gens autour qui en font une montagne. Et c'est quelque part, c'est aussi c'est la rançon du début du succès, c'est-à-dire que tu t'attires. Un certain type de médias, un certain type de fans aussi qui voient le sport que par des oppositions d'individus, Caitlin Clark, Angel Reese, Paige Bakers, tout ça. Enfin, c'est malheureux, c'est mais c'est comme ça.
En tout cas, moi, j'ai voulu regarder sur la télé là, en replay les LSU Iowa. Malheureusement, il y était pas. Et c'est la première fois où je me dis merde, j'aurais bien aimé regarder ça. Du coup, j'ai regardé Duke, NC State là, et du coup, j'ai pu regarder pendant 40 minutes DJ Burns Jr.
Ouais, DJ Burns.
Qui est Oliver Miller qui a mangé Zach Randolph. Je pense qu'il y avait pendant tout le match, il y avait l'intérieur, comment il s'appelle, Filipowski là, de Duke.
Ouais. Ah, sa cote a baissé avec ce qu'il a pris.
Qui essayait de faire le tour. Mais le mec, écoute-moi, il a pris Waze pour essayer de faire le tour de du gars tellement il ne trouvait pas le chemin. Alors après, je pense qu'il y aura des limites à ce DJ Burns Junior.
Jokic était devant le match aussi. Il a dit qu'il l'avait adoré, qu'il trouvait que c'était un super, super joueur, qu'il aimerait bien l'avoir comme coéquipier et tout.
Je sais pas, il y a une attitude quand même qui est particulière. Hein. C'est le type qui marche à moitié. Je sais pas s'il est prêt, il est vraiment pas NBA ready quoi, dans le truc. Mais ouais, c'est une attraction. C'est vraiment rigolo. Un personnage.
Il a une phrase où il a dit j'ai regardé énormément de vidéos de Hakeem Olajuwon, mais je suis né avec le physique de Zach Randolph quoi. C'est pas. Je fais que ce que j'ai quoi.
Franchement, si vous avez l'occasion, regardez le match contre Duke et regardez le calvaire de Filipowski qui à chaque prise de position, l'autre il envoie le bras comme ça, il le dégage à 10 mètres.
Ah non, mais Filipowski, il a perdu 10 places, hein, je pense, hein, dans les mocks, là, avec ce que, alors que c'est un lottery pick.
Il a perdu 10 côtes, 10 passes. Mais il est en. Je crois qu'il est même scouté par les propriétaires NFL, j'ai vu.
Ah ouais.
Oui, c'est ce qu'on a vu passer, ouais.
Ouais, ouais,
Et du coup, j'ai une autre question pour toi. Donc voilà, dans culture, forcément, on parle de la culture basket au sens large. Toi, je sais que tu as aussi une grosse culture foot. Est-ce que, quand tu t'es mis à te passionner pour le basket, est-ce qu'il y a eu un antagonisme entre ces deux cultures? Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus apporté dans... Alors, je ne parle pas personnellement, mais dans les à côté, au-delà du sport lui-même, au-delà de ce qui se passe sur le terrain, tu vois, que ce soit de la musique ou vestimentairement parlant ou sur des films, comment t'as vécu ça? Parce que c'est vrai que, bon, avec Pierre Armand, on est un peu plus ou beaucoup plus âgé que toi. Donc, nous, à notre époque où c'était encore plus underground, on en avait déjà parlé dans les premiers épisodes, il y avait un vrai côté un peu tribu, tu vois, comme tu disais, sur les sports qui sont pas connus, qui sont underground, ça pouvait aller avec la musique. Il y avait une appropriation très forte de ces codes-là. Je me demande s'il y a eu des choses similaires pour toi.
Bah, du coup, moi, je l'ai pas, ma passion pour le basket, ça a pas eu le même impact que chez vous. Moi, je suis un peu comme un outsider dans le monde du basket parce que j'en ai pas fait en club. Je l'ai vécu, comme je disais, à travers mes cousins qui, eux, étaient totalement dans votre cas. Je pense qu'ils sont exactement de la même génération, pareil. Ils ont tout été connecté, la manière de s'habiller, la musique qu'ils écoutaient, c'était celle qu'écoutaient les Américains à cette époque-là. Moi, je l'ai vécu un peu après ça avec le basket, mais je me suis pas mis à m'approprier non plus tous les codes. Au niveau musical, j'aime plein de trucs en hip-hop aussi, essentiellement américain, mais je pense que ça a été dissocié, quoi, tu vois. Je me suis toujours, et même encore maintenant, c'est pas que je me sens comme un intrus à la culture basket, parce que je me suis aussi documenté, cultivé dessus, mais j'ai toujours un peu le côté gars qui arrive après et qui fait pas forcément partie de la tribu en question, tu vois. Mais ça m'empêche pas de, tu vois, c'est peut-être au niveau, ça se joue au niveau de référence parfois de certains trucs, mais et pour le foot, il n'y a pas eu d'antagonisme. Ma façon de consommer et de vivre les deux sports est tellement différente. Maintenant pour le basket, j'arrive à dépassionner, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que j'arrive à être lucide quand je regarde un truc, même si j'aime une équipe ou un joueur plutôt qu'une autre, j'arrive à avoir un truc, à être calme dessus. Si l'équipe que j'aime bien perd, je vais pas péter un câble. Au foot, j'arrive pas. J'ai 36 ans. Mon humeur est encore impactée par le résultat de l'OM la veille. C'est catastrophique. Et je me suis calmé avec l'âge, hein. Mais avant, c'était terrible. Si Marseille perdait un vieux match de mi-saison sans aucun intérêt, le lendemain, j'étais. C'était en basket. J'ai pas ça. Je suis plus dans de l'admiration béate parfois. Genre, je comprends pas ce qui se passe sur ce que je suis en train de regarder. Tellement ça me paraît surnaturel. Tellement c'est beau en termes de dynamique de jeu, d'histoire. C'est quelque chose de. C'est de l'ordre du rêve presque. Le foot, c'est plus concret, parce que j'y ai joué toute ma vie. Je dis pas que je suis capable de faire tout ce que font les mecs, les meilleurs joueurs du monde, mais je comprends ce qui se passe et je suis pas halluciné, tu vois. Et donc, j'en suis peut-être plus exigeant avec mon regard de spectateur. Je vais plus facilement râler devant mon canapé et critiquer un mec que ce que je me permettrais jamais de faire au basket, en fait. Donc, j'ai un rapport plus complexe et torturé avec le foot que je continue de pratiquer. Et le basket, c'est que du plaisir, en fait. J'ai pas d'anxiété vis-à-vis du basket. Quand les équipes que j'aime bien performent, je suis super content. Quand ça marche pas, c'est pas grave. Je peux m'intéresser à tout. J'ai pas de vrai antagonisme envers des équipes ou des joueurs. En foot, par contre, j'ai le côté parfois fan un peu décérébré qui n'arrive pas à dépassionner le truc. Et ça dure depuis toujours. C'est assez terrible. Il y a un côté toxique au foot que j'ai pas du tout avec le basket. Et même dans le traitement journalistique, en fait. Parce que j'ai travaillé dans le foot aussi un peu. Et c'est deux mondes tellement différents. T'as accès à rien au foot. À moins de copiner à mort, tu n'as accès à rien. Quand tu vas dans les rassemblements de l'équipe de France, par exemple, à part les zones mixtes, tu n'as pas de relation vraiment avec des joueurs, tu n'as pas d'interaction propre. Au basket, l'année où j'étais à New York, le premier jour, tu arrives et tu te retrouves dans le vestiaire des Knicks, il y a Carmelo Anthony à côté qui attend que tu lui poses une question. Tu ne comprends pas, tu as accès à des trucs invraisemblables. Et les mecs, ils sont éduqués aussi à vivre avec les journalistes, à dialoguer avec. Ils savent que ça fait partie du job. En foot, il y a une défiance et une méfiance qui n'existent pas, qui existent moins en tout cas au basket, quoi.
Et tu viens de parler, c'est intéressant, de l'équipe nationale. Il y a un rapport qu'on a avec l'équipe nationale de basket qui est très amical et qu'on a tous. On s'en tape que Nico il joue aux Clippers et qu'à l'époque Tony il joue aux Spurs, etc. Quel est le rapport que tu as, toi, à l'équipe de France de foot? Est-ce que, par exemple, Bah ça, tu ne les supporteras, tu peux pas. Moi l'autre jour j'ai voulu aller voir l'équipe de France parce que moi j'ai un souci, ouais. Voilà, moi, j'ai l'équipe de France qui me rend. Voilà, je suis comme toi quand je regarde l'OM, ça me rend fou. C'est-à-dire, ça me rend dingue. L'équipe de France, ça peut me, je sais pas pourquoi. Mais jamais je me gâcherai un match de l'équipe de France parce que. Et je ne suis pas allé voir l'équipe de France à Marseille parce que j'avais pas envie d'entendre des sifflets sur Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, ouais. ou plus largement sur un gars qui a... Ah bon.
Mais moi, je connais absolument rien.
Je suis allé voir le Real Madrid jouer en 2004 en Ligue des Champions et se faisait siffler Zidane parce qu'il était au Real Madrid et qu'il n'était pas l'OM. Donc, si tu veux, j'ai tout vu. Mais voilà, et je voulais savoir si toi, ton rapport à l'équipe de France de foot, il était le même. Justement, c'est-à-dire que tu es supporter d'un club avant d'être supporter d'une nation.
Totalement. Je suis totalement supporter d'un club plutôt que d'une nation. Je suis resté. Alors c'est peut-être parce que je suis resté bloqué.
Tu préfères une Coupe de France de l'OM à
une Coupe du Monde de l'équipe de France, ouais. C'est terrible. Mais alors attends, laisse-moi.
Clairement, vient de quitter le podcast parce que vous nous écoutez.
Attention, je peux le comprendre.
Je vais t'expliquer pourquoi. Alors peut-être parce que je suis resté, comme pareil pour la musique, les séries, tout ce que tu veux, je suis resté bloqué dans ce qui m'a plu. C'est-à-dire que j'ai vibré à France 98, j'étais comme pour des matchs de l'OM, j'étais comme un malade. Et tout ce qui s'est passé après, j'ai pas du tout réussi à vibrer pareil, à avoir les mêmes émotions, à m'attacher aux joueurs de la même manière. Et c'est presque inévitable. Là, je ne regarde pas les matchs de l'équipe de France de foot, à l'exception des Coupes du Monde, et encore. C'est-à-dire que la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée en 2018, c'est-à-dire déjà, tu vois, je viens de dire « il », je ne dis pas « on », alors que Marseille, même s'ils perdent contre Lorient, je vais dire « on a perdu », tu vois. Et en 2018, le match un peu vibrant contre l'Argentine, avec le but de Pavard, le scénario de fou, j'étais à un mariage et je n'ai même pas vu le match, tu vois. Donc, c'est le seul match où j'aurais pu un peu décoller en termes de… Et je j'arrive pas… Et c'est pas parce qu'il y a des joueurs du PSG dedans, hein, je m'en fous que je suis pas. De toute façon, même quand je vais au stade, j'enlève pas le cerveau, je me mets pas à insulter les mecs. Par contre, attention, j'aime la ferveur du stade, mais je vais pas insulter les gens. Par contre, mais j'ai pas l'attachement à l'équipe nationale, je l'ai pas en fait. Je l'ai en basket, vraiment beaucoup, surtout chez les filles encore plus que chez les gars. Mais en foot, je l'ai pas. Je crois que je l'ai plus surtout. Je pense.
Si je te dis par contre une médaille à l'Euro pour l'équipe de France avec Victor, MVP du tournoi, ou un titre NBA avec les Spurs pour Victor, avec Victor MVP des finales, tu préféreras peut-être le titre national ?
Ouais, peut-être quand même.
Tu penses en tout cas, ouais.
Un titre, alors pas une médaille d'argent, une vraie victoire, peut-être même plus qu'un Euro, alors une Coupe du Monde ou un truc, je sais pas, tu vois, mais... Non, mais
regarde, regarde la tête de Théophile Omesser qu'on a perdu complètement, qui se dit mais de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est que ces réflexes de primate.
Moi, j'adore parler de foot avec Théo.
Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est une question que Théo, je ne me suis pas du tête, tout posée, donc je découvre, j'écoute.
Ouais, parce que Théo, tu vois, Théo vu qu'il est totalement étranger au monde du foot et qu'il il s'y plonge pas, et il a raison parce que c'est, comme je disais, c'est nocif et c'est pas les mêmes.
Même pas un pied, ouais.
C'est pas le même monde. Mais. Tu vois, là, ce dont on parlait, je pense que Théo, il ne le conçoit pas, le fait que tu es fan d'un club. Donc, genre, tu prends l'exemple au basket, tu es fan des Spurs, et puis tu vas voir un match de Team USA. Et parce qu'il y a un joueur d'une équipe rivale de Dallas, par exemple, dès qu'il va toucher la balle, tu vas le siffler et l'insulter tout le monde. Bah, en foot, c'est ça.
Ah, mais je ne savais pas que ça existait, en fait. C'est-à-dire que je découvre. C'est pour ça
que je spécifique à Marseille.
Moi, ça me gâche le truc. Quoi.
C'est très spécifique à Marseille, par contre.
Paris aussi. J'imagine qu'à Paris aussi, tu as un Lyonnais. Tu mets un joueur de Lyon, bon, bah, il n'y en a plus, il n'y en aura pas peut-être pour un moment, mais qui va jouer à Saint-Étienne, c'est la même histoire. Mais c'est moi, c'est quelque chose que par contre qui me gâche le truc.
Non, je comprends, mais moi, j'aime pas ça non plus. Hein. Je veux dire, mais par contre, ouais, j'ai pas les papillons au ventre quand il y a l'équipe de France de foot qui joue, ou je l'ai plus en tout cas, je l'ai eu à une époque jusqu'à 2002 peut-être, où ça m'avait un peu bouffé la défaite en Coupe du Monde avec 0 points en phase de groupe. Enfin, 0 victoire, oui, 0 point, non. Il y a un match nul, si.
Ouais, il y a 0 point.
Zéro point, et... Non,
il y a un match nul contre l'Uruguay. Au match
ça m'avait... Voilà, c'était un peu déprimant, mais après, tous les trucs, le bus à Naïsna et tout, enfin, j'ai pas aimé générations les générations de joueurs qui sont arrivées après. J'ai jamais eu de coup de cœur. Par contre, je sais reconnaître quel joueur est monstrueux. Enfin, Mbappé, il a beau jouer pour le club... rival et tout ça, et c'est un monstre absolu, il y a aucun, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pas ne pas célébrer, ne pas être content d'un but de l'équipe de France si c'est Mbappé qui le marque, enfin, ça a aucun sens.
Alors, c'est pour, te dire, pour te dire, Théo, pour continuer à te mettre la tête sous l'eau, le problème, par exemple, Mbappé, c'est que quand même, il va partir jouer à l'étranger au Real Madrid, gagner des Ligues des Champions, machin, quoi que ça arrive. Quand il reviendra dans 10 ans avec l'équipe de France jouer à Marseille, il se fera siffler de la même manière parce qu'à un moment donné,
il a joué à Paris.
Du mauvais côté de la route, tu vois.
C'est ça. Okay. C'est ça. C'est le côté entier qui a. À la fois, je le déteste et je l'adore dans le foot. Et bon, c'est aussi très spécifique aux Marseillais. Hein. Le côté pas du tout raisonnable et c'est leur vie, quoi. Il y a que
oui,
ça.
Oui, je te confirme.
Tu vois, on sent
on sent la. On va pas faire une spéciale Marseille, mais on sent l'humeur de la ville. Et le ciel semble plus bleu et réellement quand l'OM réussit. Là, il y a des échéances européennes qui arrivent. Bon, moi, ça m'est arrivé d'organiser avec l'émission de radio sur Radio Grenouille ce qu'on appelait les Hangtime Awards à un moment donné. Et on avait organisé un super plateau. Avec Temetan, La Chica, il y avait JP Manova, il y avait des DJ, etc. Mec, m'est sorti le jour de l'event qu'on avait prévu 4 mois avant, demi-finale retour, Coupe d'Europe contre Salzbourg ou je sais plus où. Là, voilà. Bon, c'est fini. C'est-à-dire, on a failli. On a failli annuler. On a déplacé l'event à 19h parce que le match était à 21h. On avait pris une salle où on pouvait avoir entre 1000, plus de 1000 personnes. On a fini, on était 30.
Ouais,
oui, c'est incontrable. C'est terminé.
C'est presque dommage que cette ferveur, parce que les Marseillais arrivent à la transposer sur d'autres sports, mais en basket, c'est dommage. Il pourrait y avoir aussi génial. Moi, j'adorerais aller voir des matchs de basket à Marseille avec un public en feu. Et ça pourrait être comme en Grèce, en Turquie ou quoi, si vous voulez, les mecs, c'est ça. Et alors, ils le remettent sur le hockey en ce moment, j'ai vu ça.
Oui, il y a un gros hockey, mais il y a une rumeur du Noobs Factory. Alors, si ce n'est pas une rumeur, je lance une fausse rumeur comme ça. Peut-être que les gens de la Hoops nous entendront. S'il vous plaît. On n'a nulle part où jouer, quoi.
Mais la question sur Victor, elle est marrante parce que tu vois, j'ai été étonné que tu hésites, en fait. Parce que moi, franchement, je serais content que Victor gagne un titre avec les Spurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, je prends une médaille avec l'équipe de France tous les jours de la semaine. Quoi. Pour le coup, tu vois, je suis content de voir des joueurs français ou des joueurs que j'aime bien performer. Moi aussi, j'ai mes préférés, ceux que j'aime plus que d'autres. Mais je t'avoue que j'ai un détachement quand même sur les résultats de club. Alors que, voilà, malgré tout, c'est pas uniquement par patriotisme, en fait, voilà, même quand il y a des compétitions, je pense qu'on est plutôt, du moins on essaie d'être plutôt objectif. Moi, j'aime bien l'équipe de France quand elle joue bien au basket, mais si elle joue bien au basket et qu'elle peut aller chercher une médaille, ça me marque plus que les résultats de club pour le coup.
Mais je réfléchissais peut-être de son point de vue, je sais pas pourquoi je me le suis pas posé pour moi, je me suis dit du point de vue de Victor, qu'est-ce qu'elle plus, tu vois. Je pense que dans son arc de carrière, dans sa trajectoire, bon, lui il veut tout gagner et je pense qu'il y arrivera, mais. Je me suis demandé du coup si avec les Spurs ce serait pas un. Mais moi personnellement, bien sûr que je préfère l'équipe de France. De toute façon, je suis pas fan des Spurs. Vous savez, je préfère plutôt Orlando, New York, ça. Mais je serais content pour lui dans les deux cas.
Benjamin Moubèche, je viens de faire un micro AVC. Je suis pas fan des Spurs. Moi, j'ai une question à te poser parce que plus je te regarde, Chai, plus je me rends compte que tu ne ressembles pas à Laïs Ribeiro. Donc je pense à Joachim Noah. Aujourd'hui, si vous deviez tous les deux construire une franchise, on met de côté l'apport offensif complètement. On n'y pense pas. Vous préfériez construire une raquette autour de Rudy Gobert, de Victor ou de Joachim Noah ?
On met pas le côté défensif, le offensif.
On met pas du tout le côté offensif pour défendre, pour construire votre défense. Prenez lequel des trois ?
Je crois que je prends Victor, moi.
Bah ouais, parce que.
Et ça veut pas dire qu'il est plus fort que Rudy à l'heure actuelle, mais je pense qu'il a quand même encore plus de mobilité que Rudy, plus la capacité à gâcher la vie de l'adversaire, quelle que soit la forme de jeu.
Joachim Noah, vous en parlez pour vous, c'est.
Si, bien sûr, Noah, mais alors c'est parce que c'était le plus ancien du coup, mais il était monstrueux sur la mentalité, sur le côté la force mentale, il est numéro 1 par contre.
Prime Noah au Bulls, c'est
quoi ? Prime Noah et puis point forward en plus, le gars a fini 4e du MVP quand même. Hein. Il était incroyable. Mais je dirais Victor aussi quand même. Enfin, c'est peut-être le le recency bias, comme ils disent. Mais c'est oui, je pense Victor, il est ce qu'on le voit être déjà capable de faire. Et je leur dis, c'est son niveau le plus bas normalement là, ce qu'il fait déjà en défense. Il n'y a pas que ok, le mec, il fait des matchs à 9 contre, c'est fou. Mais il y a tout autour, la simple dissuasion, elle est dingue. Il a tous les bons réflexes, tous les bons gestes déjà. Ça, tu vois, il va gagner 3 ou 4 DPOY minimum, hein, je pense.
Et Chai, tu sais qu'on a nos rubriques de fin d'émission, ouais, avec Hoop Culture. Donc voilà, forcément, on voulait avoir tes inputs. Je vous propose qu'on passe au coup de cœur de la semaine. Est-ce que toi, tu as eu un coup de cœur cette semaine en particulier?
Bah, je savais pas qu'on parlerait du basket féminin et de NCAA et tout ça. Donc j'avais ce que je m'étais dit, je voulais parler du faire un shout out au basket féminin et
tu peux, hein, bien sûr.
Ouais, mais c'est ça, je voulais juste c'était plus pour inciter les gens à se pencher vraiment dessus, parce que là ça peut paraître un peu toujours un truc de niche, mais je trouve ça extrêmement important pour les gens qui se disent vraiment fans de basket de s'ouvrir à tous les types de basket, toutes les ligues, tous les genres de, c'est pas juste, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais ça me rend fou quand je lis certains commentaires. Ouais, il faudrait baisser les paniers. Ouais, c'est pas spectaculaire. Non, mais... Ouais, on s'en fout. Elle demande à être payée autant que les mecs. C'est un scandale, ce qui n'est évidemment pas vrai. Ça, c'est un truc qu'il faut aussi corriger. La moitié des gens qui commentent sur les vidéos YouTube, qui pensent, qui sont vraiment persuadés que les joueuses demandent les mêmes salaires que LeBron James et tout ça, alors qu'elles demandent le même pourcentage des revenus générés que les gars, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que 25% par exemple, alors que les gars touchent 50% des revenus générés, hein, avec le syndicat et tout. Les filles, c'est 20% de sommes qui sont dérisoires, avec des carrières très courtes, avec l'impossibilité parfois d'avoir une maternité en cours de carrière si elles veulent. Alors, si c'est un coup de gueule, le coup de gueule sur le fait que les gens ont besoin d'être un peu moins ignorants et de se renseigner, et il y en a malheureusement beaucoup, mais c'est voilà, le prisme des commentaires YouTube et des réseaux sociaux, mais c'est assez dur à accepter. Et j'aimerais du coup que les gens s'instruisent un peu, prennent le temps de regarder les matchs, de découvrir les histoires des filles, que ce soit en France, aux États-Unis. Enfin, je trouve que c'est lié aussi à, c'est une question de société aussi. On parle, il y a des journées des droits des femmes et tout ça, mais ça reste dans le sport ou ailleurs. Je trouve que les gens font pas encore assez l'effort, ils sont pas assez instruits, ils font pas ces efforts-là, et c'est ce qui je déplore un peu ça. Et après, plutôt sur le côté coup de cœur, c'est l'engouement qui est quand même en train de grandir. La preuve, c'est que quand on a commencé les podcasts et tout ça, on parlait jamais des filles, peut-être de l'équipe de France rapidement, mais là maintenant c'est devenu incontournable parce que les gens s'y intéressent, les gens demandent, posent des questions. Tiens, mais alors ouais, Caitlin Clark, elle est vraiment forte. Marine Johannes, c'est quoi le scandale avec la Fédé? Enfin, ces trucs, il se passait des choses comme ça avant avec la Fédé, avec les filles. Il y a des histoires qui sont, mais personne n'en parlait parce que ça c'était pas assez médiatisé et les gens ne s'y intéressaient pas. Et donc ça, c'est le côté coup de cœur, c'est que c'est en train de monter, qu'il y a de la médiatisation, que chacun à son échelle essaie de faire ce qu'il peut, et je trouve ça déjà bien. Mais j'incite vraiment les gens à s'intéresser, à se cultiver sur le sujet, parce que c'est du basket, c'est du très bon basket, et ça, voilà, ça a le mérite de proposer des choses différentes de ce qu'on voit chez les gars. Si vous regardez que les gars et que vous êtes bloqué sur le basket de garçon, donnez sa chance au produit, voilà.
Je ne peux qu'aller dans ton sens, Shai, d'autant que voilà, je trouve que sur le très haut niveau, honnêtement, c'est du basket tout aussi spectaculaire. Je ne comprends pas les polémiques autour de baisser les paniers pour mettre des dunks. Franchement, regarde des vidéos de dunkers si tu veux voir des dunks, si tu veux voir du basket. Ouais, ouais. Regarde du basket, c'est aussi simple que ça.
Shai, il a écrit un superbe article sur Becky Hammon dans le dernier Spurs. Va demander à Becky Hammon si elle voulait qu'on baisse les paniers. Tu vois, elle va te mettre un coup de pied avec son mètre 68. Tu vois.
Pierre, tu avais un coup de cœur cette semaine, toi ?
Ouais, bah moi je reste 100% féminin cette semaine et ça tombe bien. Mardi dernier, dans Dunk Time, on a reçu une des plus belles voix que la Soul ait pu produire, une Anglaise. Elle est toute blonde, elle s'appelle Alice Russell et ça faisait plus de 10 ans, voire 11 ans qu'elle n'avait pas sorti de disque. Le dernier s'appelait To Dust. Elle a eu quelques drames familiaux, elle a perdu son père, elle a été maman deux fois, donc elle s'est occupée de sa famille. Et là, elle ressort un nouvel album très introspectif, très personnel, qui s'appelle I Am. Moi, quand j'avais vu le communiqué de presse, j'avais vu Alice Russell, I Am, et je me suis dit, non, c'est pas possible, ils sortent un truc, ils font un featuring avec I Am. Je lui ai raconté cette anecdote, ça l'a fait marrer. Mais voilà, Alice Russell qui revient, on a eu le bonheur de l'interviewer. C'était une ancienne marraine Dunk Time, donc c'est une copine aussi. Donc le bonheur, la joie d'Alice Russell qui revient toujours sur le label Trousseau avec son producteur de toujours, TM Duke. Ça, c'est une excellente chose. Et puis, j'aime bien vous montrer des bouquins toujours. On a parlé de blues il n'y a pas très longtemps, Théo, tu te rappelles, quand on parlait de Robert Johnson. Là, je vous conseille ce super bouquin sur le blues et le féminisme noir d'Angela Davis, puisqu'on y parle de Ma Rainey, de Bessie Smith et de Billie Holiday pour le grand tournant vers le jazz, voilà, avec les mots d'Angela Davis autour du féminisme et de la prise de pouvoir et de la difficulté, comme toujours, de certaines femmes d'exister dans des tendances musicales. Et puis, puisqu'on parle de grands auteurs et de grandes autrices, on a perdu une des plus grandes autrices cette semaine avec Maryse Condé, qui est partie, la grande plume du féminisme noir. Voilà, donc on est ravis de la remettre en avant. On l'était pas assez. Elle avait gagné un prix Nobel alternatif. Ça, c'est quand même, c'est ce qui est marqué sur ces 10 lauréates d'un prix Nobel alternatif. Alors, je savais pas ce que c'était. En lisant des articles sur elle, j'ai appris que c'est parce que l'Académie Nobel avait été prise engluée dans un scandale au début des années 2020 et que du coup, ils avaient créé une espèce d'entité alternative et Maryse Condé. Donc, Maryse Condé, pour moi, est prix Nobel de littérature de loin. Et je vous conseille celui-ci en attendant la montée des eaux. Voilà, c'est magnifique. La littérature antillaise, guadeloupéenne, son paroxysme. Voilà, lisez du Maryse Condé. Ça fait du bien à l'âme.
On nous avait fait dire Maryse Condé au lycée, je crois.
C'est bien, c'est un bon lycée dans lequel
tu étais. Tituba Sorcière, c'était, je crois, le livre.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'était très bien, c'était fort.
Ouais.
Et moi, je vais rester dans des livres. C'est des BD, par contre. C'est deux bandes dessinées, enfin, une bande dessinée sur laquelle je suis tombé complètement par hasard, qui s'appelle Temujin. Voilà, il y a deux tomes. Le premier, donc celui-ci qui s'appelle La Belle Mort.
Tu peux pas tomber par hasard sur une bande dessinée qui fait 1m10 de haut, Théo.
Et le deuxième tome qui s'appelle Le Voyage Immobile. Non, par hasard, parce que je les ai pris dans ma bibliothèque, tout simplement. À côté de chez moi, j'étais. C'est le dessin qui m'a arrêté. C'est de Antoine Ozanam et d'Antoine Carion. C'est en gros sur fond de mysticisme. Ça se passe dans la Mongolie. C'est l'histoire fictionnelle d'un successeur de Genghis Khan. J'ai adoré les dessins, l'ambiance très mystique sur fond de chamanisme. Voilà, je vous montre quelques pages, mais les dessins sont vraiment fantastiques. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Vraiment, j'ai mis le nez dedans et j'ai pas pu m'en départir de tout le week-end. Donc ça s'appelle Temujin, La Belle Mort, le premier tome, et le deuxième, Le Voyage Immobile. Voilà, je vous conseille d'aller, si vous aimez la bande dessinée et puis les ambiances un petit peu différentes, je vous conseille d'aller voir ça vaut vraiment le coup.
Eh ben, on ira en courant.
Aïcha, je t'avais mis au défi aussi de nous sortir une relique pour nos reliques de la semaine. Alors, on se demande ce que tu as pu nous sortir.
Ouais, bon, je trouvais des trucs. Mais alors, je suis pas très collectionneur, je suis pas quelqu'un qui conserve beaucoup les choses. Tous les beaux trucs de valeur que j'ai eu, je les ai refilés à des cousins ou des.
Mais je vais faire ça.
Je sais.
Mais parce que lui, tu vois, Shai, à l'inverse de toi et moi, Pierre Armand, c'est qu'il souhaite conserver une vie maritale paisible.
Non, mais c'est comme ça. Je
donne même pas un crayon, moi. Hein.
Je suis très minimaliste. C'est terrible. Je rêve, j'adore les collectionneurs, je trouve ça fou, les gens qui arrivent à avoir des collections sur des années. Quand Théo, je vois ses vinyles, quand je vois dans l'émission, quand vous montrez vos reliques, je trouve ça dingue d'avoir réussi à conserver tout ça. Moi, c'est plus du sentimental sur une période. Bah, je parlais tout à l'heure de l'année que j'ai passée à New York via Rivers en étant correspondant là-bas. Et du coup, j'ai ramené les deux trucs qui symbolisent bien l'année là-bas, je trouve. C'est deux accréditations. C'est une où les Knicks m'accueillent avec mon nom dessus, les Knicks Welcome Shai Mahmood de Rivers.
Voilà, classe.
Et voilà, c'est le côté un peu classe, mais c'était la première fois où je me suis dit, mince, je vais travailler à New York comme journaliste pour couvrir du basket, ça m'a fait un choc. Et sur l'événement que j'avais préféré sur cette année-là aussi, c'était la Draft 2014 que j'avais vraiment couvert de l'intérieur sur les 2-3 jours, qui entourent, qui précèdent la Draft. Pareil, c'était l'accréditation Draft 2014 avec...
Ouais, c'est classe.
Andrew Wiggins, Julius Randle et compagnie, c'était top. Et vu que vous montrez souvent des maillots, des trucs comme ça, je ne garde pas beaucoup de maillots. Je sais, c'est un tort, mais mon père, c'était l'année d'avant que j'aille à New York, il y était pendant la Linsanity, moi j'y étais pas. Et il a vu que je me levais toutes les nuits pour regarder tous les matchs de Jeremy Lin, les quelques matchs où il a explosé. Et il s'est bagarré pour les maillots étaient en rupture de stock hein, de Jeremy Lin, et il s'est bagarré avec un mec pour m'arracher un maillot de Jeremy Lin à la boutique au NBA Store. Et donc voilà, c'est un des seuls maillots que j'ai encore, Jeremy Lin. Voilà.
J'ai exactement Classe. Le même trouvé sur Vinted, le fameux maillot Adidas avec les épaules très très larges.
Voilà, sur le coup, c'était un petit exploit de l'avoir, donc je remercie mon père de l'avoir chopé à l'époque. Voilà.
Et si vous voulez être accrédité par Rivers pour faire des beaux voyages, vous envoyez un mail à voyage.rivers@gmail.com, à croisière.rivers@gmail.com, et on vous organise.
Allez, ben moi je sors le mien. Du coup, comme on avait Shai aujourd'hui, j'ai voulu lui rendre hommage avec un maillot, moi aussi. Et c'est un maillot du Orlando Magic.
Mais oui.
Maillot de Grant Hill.
Grant Hill, ouais.
Ah, satiné, voilà, et tout, que c'est beau.
L'un de mes joueurs préférés all-time, maillot donc Reebok d'époque. L'année où il est arrivé, tout simplement, enfin, donc 2000, non, l'année d'après, je crois, 2001, maillot qui m'a été offert par ma chère et tendre à l'époque. Et donc, j'étais ravi parce que voilà, j'étais fan dingue de Grant Hill. Je croyais fort à la combinaison avec T-Mac. Malheureusement, voilà, le problème de cheville de Grant Hill n'ont jamais permis à ce duo de.
Est-ce que tu buvais du Sprite pour dunker comme Grant Hill ou pas? Rappelle de la pub, c'est la meilleure pub. De... Ouais. Tu vois Grant Hill qui boit son Sprite et qui va claquer un dunk, et derrière le mec qui pense faire pareil, qui boit une gorgée. Si tu veux faire comme Grant Hill, et là tu crois qu'il va dire bois du Sprite, mais il s'explose sur le panier, il se loupe, entraîne-toi. Et ça, c'est la meilleure des pubs.
Mais oui, c'était le gendre idéal de la NBA, Grant Hill.
Ouais.
À l'époque.
Les nuls auraient fait la même chose avec un gros rot de la part du gars qui boit du Sprite surtout avant de dunker. En tout cas, Shai, respect pour ta fidélité à tes couleurs, parce que je vois que comme par hasard, tu es Magic, c'est bleu et blanc. Tout comme l'OM, c'est pas le même bleu, mais ça reste bleu et blanc. Ouais. Théo et moi, on est rouge et blanc à la mort. Théo est parfois rose et noir à la mort avec Miami. Ouais. Mais voilà. Alors moi, je vous sors un t-shirt que j'avais chopé avec l'ami Kenny Graham, là, quand j'étais à New York une fois. Il y avait un tournoi à Westford, le Sherm Ice First Annual Pickup Classic, avec un logo dégueulasse. mais le mec vendait ça. Alors, c'est une taille S. Je te laisse admirer la taille S. Et regarde bien New York Style Baby, derrière le logo We Don't Ball, We Battle.
Ah ouais, the cage.
Westford, c'est cage. C'est beau quoi.
Avec Kenny Graham, Westford, voilà. Et ce jour-là, il y avait, comment il s'appelait, le pauvre et regretté, paix à son âme, qui se fait aspirer l'âme par Covid, Smoosh Parker qui était là.
Ah oui, c'est son terrain de prédilection.
Donc, j'avais super kiffé cette espèce de slogan. Et il y avait aussi, pour $1 de plus, je crois, il vendait les espèces de bracelets en plastique où il y a marqué « We don't ball, we battle » aussi. Donc, je trouvais ça marrant. Ouais. Voilà. C'est une relique de 2014.
Ok. Mais magnifique, en tout cas, franchement, c'est tournoi quand même et terrain mythique. Shai, merci encore, mille merci d'avoir été avec nous. On est ravis. Faudra qu'on fasse on fera la deuxième partie avec ton binôme du CQFR avec Antoine Pimel pour en savoir plus sur ces nuits lyonnaises ou toulousaines ou allemandes. Je pense qu'il y a
partout
y a des
dans le monde
à aller creuser.
Partout dans le monde.
Et il faudrait faire une late session avec le Hoop Culture aussi pour voir pour défoncer des pongistes un peu.
Allez, amis pongistes, nous sommes venus en paix. On vous laisse tranquille pour cette fin de week-end. Merci encore d'avoir été avec nous. On vous dit à très vite. Si vous voulez en savoir plus sur Shai et Antoine, c'est tous les matins, du lundi au samedi. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Pierre Armand. Ciao à tous.
Ciao.